Georges Bernanos, La France contre les robots, chapitre 1. Si le monde de demain ressemble à celui d'hier, l'attitude de la France sera révolutionnaire. Lorsqu'on s'en tient à certains aspects de la situation actuelle, cette affirmation peut paraître très audacieuse. Dans le moment même où j'écris ces lignes, les puissants rivaux qui se disputent sur le cadavre des petites nations, le futur empire économique universel, croient déjà pouvoir abandonner vis-à-vis de nous cette ancienne politique expectative, qui a d'ailleurs toujours été celle des régimes conservateurs en face des révolutions commençantes. On dirait qu'une France libérée de l'ennemi les inquiète beaucoup moins que la France prisonnière, mystérieuse, incommunicable, sans regard et sans voix. Ils s'efforcent, ils se hâtent de nous faire rentrer dans le jeu, c'est-à-dire dans le jeu politique traditionnel dont ils connaissent toutes les ressources et où ils se croient sûrs de l'emporter, tôt ou tard, calculant les atouts qui leur restent et ceux que nous avons perdus. Il est très possible que cette manœuvre retarde un assez long temps les événements que j'annonce. Il est très possible que nous rentrions dans une nouvelle période d'apaisement, de recueillement, de travail, en faveur de laquelle sera remis à contribution le ridicule vocabulaire, à la fois cynique et sentimental, de Vichy. Il y a beaucoup de manières, en effet, d'accepter le risque de la grandeur. Il n'y en a malheureusement qu'une de le refuser. Mais qu'importe, les événements que j'annonce peuvent être retardés sans dommage. Nous devons même prévoir, avec beaucoup de calme, un nouveau déplacement de cette masse informe, de ce poids mort que fut la révolution prétendue nationale de Vichy. Les forces révolutionnaires n'en continueront pas moins à s'accumuler, comme les gaz dans le cylindre, sous une pression considérable. Leur détente au moment de la déflagration sera énorme. Le mot de révolution n'est pas pour nous, Français, un mot vague. Nous savons que la révolution est une rupture. La révolution est un absolu. Il n'y a pas de révolution modérée. Il n'y a pas de révolution dirigée, comme on dit, l'économie dirigée. Celle que nous annonçons se fera contre le système actuel tout entier, ou elle ne se fera pas. Si nous pensions que ce système est capable de se réformer, qu'il peut rompre de lui-même le cours de sa fatale évolution vers la dictature de l'argent, de la race, de la classe ou de la nation, nous nous refuserions certainement à courir le risque d'une explosion capable de détruire des choses précieuses qui ne se reconstruiront qu'avec beaucoup de temps, de persévérance, de désintéressement et d'amour. Mais le système ne changera pas le cours de son évolution pour la bonne raison qu'il n'évolue déjà plus. Il s'organise seulement en vue de durer encore un moment, de survivre. Loin de prétendre résoudre ses propres contradictions, d'ailleurs probablement insolubles, il paraît de plus en plus disposé à les imposer par la force, grâce à une réglementation chaque jour plus minutieuse et plus stricte des activités particulières, faite au nom d'une espèce de socialisme d'État, forme démocratique de la dictature. Chaque jour, en effet, nous apporte la preuve que la période idéologique est depuis longtemps dépassée, à New York comme à Moscou ou à Londres. Nous voyons la démocratie impériale anglaise, la démocratie plutocratique américaine et l'empire marxiste des dominions soviétiques, sinon marcher la main dans la main, il s'en faut, du moins poursuivre le même but, c'est-à-dire maintenir, coûte que coûte, fût-ce en ayant l'air de le combattre, le système à l'intérieur duquel ils ont tous acquis richesse et puissance. car, à la fin du compte, la Russie n'a pas moins tiré profit du système capitaliste que l'Amérique ou l'Angleterre. Elle y a joué le rôle classique du parlementaire qui fait fortune dans l'opposition. Bref, les régimes jadis opposés par l'idéologie sont maintenant étroitement unis par la technique. Le dernier des imbéciles, en effet, peut comprendre que les techniques des gouvernements en guerre ne diffèrent que par de négligeables particularités justifiées par les habitudes, les mœurs. Il s'agit toujours d'assurer la mobilisation totale pour la guerre totale en attendant la mobilisation totale pour la paix totale. Un monde gagné pour la technique est perdu pour la liberté. En parlant ainsi, je me moque de scandaliser les esprits faibles qui opposent aux réalités des mots déjà dangereusement vidés de leur substance, comme par exemple celui de démocratie. Qu'importe, si vous êtes trop lâche pour regarder ce monde en face afin de le voir tel qu'il est, détournez les yeux, tendez les mains à ses chaînes. Ne vous rendez pas ridicule en prétendant y voir ce qui n'existe que dans votre imagination ou dans le bavardage des avocats. Ne commettez pas, surtout, l'infamie de lui prostituer le mot de révolution, ce mot religieux, ce mot sacré, tout ruisselant à travers les siècles du sang des hommes. Ne lui prostituez pas non plus le mot de progrès. Jamais un système n'a été plus fermé que celui-ci, n'a offert moins de perspectives de transformation, de changement. Et les catastrophes qui s'y succèdent avec une régularité monotone n'ont précisément ce caractère de gravité que parce qu'elles s'y passent en vase clos. Qu'il s'intitule capitaliste ou socialiste, ce monde s'est fondé sur une certaine conception de l'homme, commune aux économistes anglais du XVIIIe siècle, comme à Marx ou à Lénine. On a dit parfois de l'homme qu'il était un animal religieux. Le système l'a défini une fois pour toutes un animal économique. Non seulement l'esclave, mais l'objet, la matière presque inerte et responsable du déterminisme économique, et sans espoir de s'en affranchir, puisqu'il ne connaît d'autre mobile certain que l'intérêt, le profit. Rivé à lui-même par l'égoïsme, l'individu n'apparaît plus que comme une quantité négligeable, soumise à la loi des grands nombres. On ne saurait prétendre l'employer que par masse, grâce à la connaissance des lois qui le régissent. Ainsi, le progrès n'est plus dans l'homme, il est dans la technique, dans le perfectionnement des méthodes capables de permettre une utilisation chaque jour plus efficace du matériel humain. Cette conception, je le répète, est à la base de tout le système et elle a énormément facilité l'établissement du régime en justifiant les hideux profits de ses premiers bénéficiaires. Il y a 150 ans, tous ces marchands de coton de Manchester, mecs du capitalisme universel, qui faisaient travailler dans leurs usines 16 heures par jour des enfants de 12 ans, que les contremaîtres devaient, la nuit venue, tenir éveillés à coups de baguette, couchaient tout de même avec la Bible sous leur oreiller. Lorsqu'il leur arrivait de penser à ces milliers de misérables que la spéculation sur les salaires condamnait à une mort lente et sûre, ils se disaient qu'on ne peut rien contre les lois du déterminisme économique voulues par la Sainte Providence, et ils glorifiaient le bon Dieu qui les faisait riches. Les marchands de coton de Manchester sont morts depuis longtemps, mais le monde moderne ne peut les renier, car ils l'ont engendré matériellement et spirituellement. Ils l'ont engendré au réalisme, dans le sens où saint Paul écrit à son disciple Timothée qu'il l'a engendré dans la grâce. Le réalisme biblique, devenu athée, a maintenant des méthodes plus rationnelles. Le génie américain résout autrement qu'eux la question des salaires. Mais il faut avouer qu'en leur temps, le matériel humain ne risquait pas de manquer. On avait, si j'ose dire, qu'à se baisser pour ramasser un affamé prêt à travailler à n'importe quel prix. La politique de production à outrance ménage aujourd'hui sa main-d'œuvre, mais la furie de spéculation qu'elle provoque déchaîne périodiquement des crises économiques ou des guerres qui jettent à la rue des millions de chômeurs ou des millions de soldats aux charniers. Oh, je sais bien que des journalistes, peu respectueux de leur public, prétendent distinguer entre ces deux sortes de catastrophes, mettant les crises économiques au compte du système et les guerres à celui des dictateurs. Mais le déterminisme économique est aussi bon pour justifier les crises que les guerres. La destruction d'immenses stocks de produits alimentaires en vue seulement de maintenir les prix, comme le sacrifice de troupeaux d'hommes. N'est-ce pas le propre vice-président des États-Unis, M. Wallace, qui citait dernièrement au tribunal de l'histoire les maîtres de la spéculation universelle, les chefs des grands trusts internationaux, les contrôleurs de marché auxquels il faut une guerre tous les 20 ans. Ce qui fait l'unité de la civilisation capitaliste, c'est l'esprit qui l'anime, c'est l'homme qu'elle a formé. Il est ridicule de parler des dictatures comme de monstruosités tombées de la Lune ou d'une planète plus éloignée encore dans le paisible univers démocratique. Si le climat du monde moderne n'était pas favorable à ces monstres, on n'aurait pas vu en Italie, en Allemagne, en Russie, en Espagne, des millions et des millions d'hommes s'offrir corps et âme aux demi-dieux, et partout ailleurs dans le monde, en France, en Angleterre, aux États-Unis, d'autres millions d'hommes partageaient publiquement ou en secret la nouvelle idolâtrie. On n'observerait pas aujourd'hui encore ce curieux complexe d'infériorité qui, même sur le chemin de la victoire, semble frapper d'inhibition les démocraties en face des régimes déjà déchus, ceux de Salazar ou de Franco, comme autant honteux, inexpiables de la guerre d'Éthiopie, ou à celui plus abject encore de la non-intervention espagnole. Il est possible que ces vérités déplaisent. Lorsque, en vue de cet entretien, je commençais à les mettre en ordre sur le papier, la tentation m'est venue plus d'une fois de leur substituer quelques autres vérités, incapables de choquer personne, inoffensives. Pour dominer cette tentation, ce n'est pas à mon pays que j'ai pensé d'abord. J'ai pensé aux amis de mon pays. Je dois ces vérités françaises aux amis de mon pays. En les leur donnant, je n'ai pas la prétention de les détacher dès maintenant de certains préjugés faciles. Je leur demande de garder ces vérités dans quelques coins de leur cerveau, dans quelques replis de leur cœur, pour le jour où la France, écartant amis et ennemis, se montrera de nouveau telle qu'elle est, fera face. Ils verront alors que je ne leur ai pas menti. Chapitre 2. Notre peuple a le droit de se dire quitte envers les démocraties. De 1914 à 1918, il aura sacrifié 2 millions de morts et les trois quarts de la fortune nationale. En 1939, elles lui ont demandé le sacrifice total. Je dis que les démocraties ont demandé à notre peuple le sacrifice total parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, au Brésil comme ailleurs, un homme sensé pour refuser d'admettre que nous n'aurions pu attendre 2 ans l'Angleterre, 4 ans l'Amérique, ayant sur les bras toute la machine de guerre allemande et sans le concours de la Russie. Nos divisions auraient fondu l'une après l'autre comme de la cire dans ce Verdun colossal. Le rôle réservé à la France était d'ailleurs précisément celui d'une troupe qui se fait tuer pour donner aux réserves le temps d'arriver. Après quoi, quelques années plus tard, comme en 1925, nous aurions reçu la note des fournitures. Notre peuple a le droit de se dire matériellement et moralement quitte envers les démocraties. Mais il sait aussi qu'un grand peuple chargé d'histoire n'est jamais quitte envers personne. Un grand peuple ne saurait se proclamer isolationniste sans se renier lui-même. Ce que notre peuple, ce que le peuple de la Résistance exige, ce qu'il a conquis par ses sacrifices et par ses martyrs, c'est le droit de reprendre les idées qu'il a jadis répandues largement dans le monde et que l'intérêt, la mauvaise foi, l'ignorance et la sottise ont exploité, déformé, usé, au point qu'il ne les reconnaît plus lui-même. Les reprendre, comme jadis on renvoyait à la fonte les monnaies d'or et d'argent. Les reprendre, les renvoyer à la fonte et à la frappe pour qu'elles puissent encore servir, servir à tous. Ou encore, s'il m'est permis d'exprimer ma pensée par une autre image, un peu oratoire en apparence, mais profondément, douloureusement juste, reprendre notre révolution à un monde cynique et âpre qui ne l'a jamais comprise, qui ne peut plus que la trahir. Je dis « notre révolution » avec une assurance tranquille. En le disant, je me sens d'accord avec ce que je me suis toujours efforcé de servir, la tradition, l'esprit, l'âme de notre peuple. Plus que jamais, je crois avec Michelet, mais aussi avec Monseigneur le comte de Chambord, le dernier de nos rois Bourbons, que le plus grand malheur des Français fut assurément de se diviser sur une révolution qui aurait dû les unir, qui les a unis réellement, nobles, prêtres et bourgeois, à certaines heures sublimes, le jour de la Fédération par exemple, ou dans la nuit du 4 août. L'étranger n'a pas seulement exploité notre tragique malentendu, il l'a provoqué, il l'a entretenu, il l'entretient encore. Lorsqu'elle soutenait contre De Gaulle cette poignée de nobles dégénérés, de militaires sans cervelle et sans cœur, d'intellectuels à la solde des spéculateurs, d'académiciens sans vergogne, de prélats serviles, bref, le syndicat des rancunes et des impuissances, présidé par le maréchal Pétain, les démocraties, incurablement réactionnaires, pratiquaient exactement à l'égard de notre pays la politique inaugurée jadis par Pitt et Cobourg. Mais du moins, Pitt et Cobourg ne prétendaient pas parler au nom des démocraties. Nous voyons au contraire se former, plus ou moins secrètement, en vue des luttes futures pour la stabilité de la paix, c'est-à-dire pour le partage des marchés, une coalition d'ignorance et d'intérêts qui s'autorise précisément contre nous des traditions de la démocratie. Le moment me paraît venu de lui opposer notre tradition de la liberté. Il y a une tradition française de la liberté. En 1789, tous les Français, pour un moment du moins, ont communié dans cette tradition, chacun selon l'étendue de ses connaissances ou la force de son esprit, mais avec une foi simple, unanime. Pour un moment, pour un petit nombre de jours d'un été radieux, la liberté fut une et indivisible. Reprendre notre révolution, c'est remonter à la racine, au principe, au cœur enflammé de notre union nationale. Quelle était avant nos discordes civiles, à l'heure où la France prenait, sinon le plus clairement, du moins le plus passionnément, conscience d'elle-même, en pleine explosion du traditionnel humanisme français, l'idée que la France se faisait de la liberté. Est-il donc une idée de la liberté qui réconcilie tous les Français? Est-elle capable de réconcilier tous les hommes? Ce sont là des questions simples. Nous ne prétendons nullement confisquer ce mot de liberté à notre usage, mais nous avons cependant quelques droits sur lui. Plus qu'un autre peuple, notre peuple l'a incarné, l'a fait sang et chair. Pendant tout le XIXe siècle, si l'on eût demandé à un homme cultivé d'Europe ou d'Amérique quel souvenir historique réveillait dans son esprit le mot de liberté, il aurait sans doute répondu par le nom de Bastille, de Valmy ou une strophe de la Marseillaise. Aujourd'hui encore, pour les lecteurs innombrables de notre histoire révolutionnaire, pour tous ceux qui, dans leur jeunesse, se sont enivrés de cette aventure merveilleuse, devenue tout de suite, on ne sait comment, ni pourquoi, légendaire, de ces grandes images d'Épinal aux couleurs joyeuses et violentes, le mot « peuple », la justice du peuple, la volonté du peuple, évoque aisément le peuple des barricades. Mais le peuple des barricades n'est pas le peuple tout court, c'est le peuple français, ou plutôt, c'est l'histoire de France insurgée. En le rappelant, nous ne prétendons humilier personne. Nous voudrions seulement que cette pure figure, pour le bien de tous, fût gardée intacte, comme nous voudrions aussi, pour le bien de tous, que ne risquât plus d'être altérée, au bénéfice de n'importe quel démagogue totalitaire, notre tradition nationale de la liberté. Car enfin, à la fin des fins, l'ouvrier du Faubourg Saint-Antoine, immortalisé par le génie de l'auteur des Misérables, le vieux travailleur idéaliste à cheveux gris, au regard d'enfant et d'apôtre, mille fois plus chrétien sans le savoir que les chrétiens qui le maudissaient, le rêveur incorrigible, mourant content sur la barricade pour le bonheur du genre humain, ressemblait certainement encore plus au garde national bourgeois, lecteur de Rousseau et de Voltaire, qu'il ajustait de l'autre côté de la rue, qu'à l'opulent gaillard américain, bien logé, bien vêtu, bien nourri, bourré de vitamines, touchant un salaire énorme et décidé à toucher plus encore à la faveur de la guerre. Il est possible que nous ne soyons plus dignes de l'ouvrier du Faubourg Saint-Antoine, mais nous sommes tout de même, lui et nous, de la même terre et de la même histoire. Nous ne le comparons pas à l'ouvrier de Détroit ou de Chicago, dans l'intention de savoir lequel des deux appartient à un type d'humanité supérieure. Mais il doit être de plus en plus clair pour tous que dans la construction du monde de demain, on ne saurait utiliser indifféremment l'un ou l'autre de ces deux types. Qui, dès maintenant, parle au nom de l'un, ne peut se vanter de parler toujours au nom de l'autre. Pour m'exprimer plus clairement et plus loyalement encore, leur conception de la vie ne se contredisent peut-être pas. Elles ne se juxtaposent pas non plus. Et si elles ne se contredisent pas aujourd'hui, elles peuvent se contredire demain. Lorsqu'un homme crie « Vive la liberté !», il pense évidemment à la sienne. Mais il est extrêmement important de savoir s'il pense à celle des autres. Car un homme peut servir la liberté par calcul, ainsi qu'une simple garantie de la sienne. En ce cas, lorsque cette garantie ne lui paraît pas nécessaire, qui l'empêcherait de faire bon marché de la liberté du voisin, ou même de s'en servir comme d'un objet d'échange et de compromis? Telle fut la politique de l'isolationnisme américain, comme aussi celle de Munich. telle est encore la politique de cette guerre. Elle s'est engagée au nom de la liberté. Mais on la définirait bien mieux une guerre pour la conservation de ce qui restait de la liberté. Malheureusement, le système en avait laissé si peu que chaque nation se réserve aujourd'hui jalousement sa part, avec la crainte que la nation voisine en ait demain une part trop grande. C'est ce qui explique, par exemple, l'extraordinaire méfiance, pour ne pas dire la secrète répulsion, des démocraties à l'égard des Italiens républicains, qui refusent très justement leur obéissance à un roi dont il n'y a pas un royaliste au monde qui ne souhaite la déchéance et le châtiment, ne serait-ce que pour l'honneur de la monarchie. L'isolationnisme yankee a poussé cette politique jusqu'à l'absurde, avec ce cynisme qui ressemble à la candeur. Il aurait volontiers fait de l'Amérique du Nord l'unique démocratie de l'univers, continuant à pratiquer tranquillement ses deux sports nationaux, l'élection présidentielle et le baseball, tandis que les dictatures auraient assuré l'ordre à son profit sur tout le reste de la planète. Tous ces gens-là croient aussi peu à la liberté qu'ils se vantent d'avoir sauvée que nous-mêmes, il y a 25 ans, à la paix de 1918. Ils ne pensent qu'à mettre d'avance au point les projets, les plans destinés à la protéger, du moins pour quelque temps, à l'intérieur de leurs propres frontières, et sans grand souci de ce qui va se passer à l'intérieur de la frontière d'autrui. On peut dire à ce point de vue que leurs fameux plans sont aussi compliqués, aussi coûteux, aussi inutiles que la ligne Maginot. Cette obsession du plan, cette conception uniquement défensive, égoïste, légaliste et conservatrice de la liberté est véritablement une tare de l'esprit anglo-saxon. L'erreur traditionnelle du peuple anglais a toujours été de croire que les institutions l'ont fait libre, alors que c'est le peuple anglais lui-même qui, jadis, au temps de sa jeunesse, a marqué ses institutions du signe de la liberté comme d'une marque au fer rouge. Ce sont les démocrates qui font les démocraties. C'est le citoyen qui fait la République. Une démocratie sans démocrate, une république sans citoyen, c'est déjà une dictature. C'est la dictature de l'intrigue et de la corruption. La liberté ne sera pas sauvée par les institutions. Elle ne sera pas sauvée par la guerre. Quiconque observe les événements a très bien compris que la guerre continue de déplacer les questions sans les résoudre. Son explosion a détruit l'équilibre des dictatures, mais on peut craindre qu'elles ne se regroupent entre elles, sous d'autres noms, pour un nouveau système d'équilibre plus stable que l'ancien, car s'il réussissait à se constituer, les faibles n'auraient plus rien à espérer de la rivalité des forts. Une paix injuste régnerait sur un monde si totalement épuisé qu'elle y aurait les apparences de l'ordre. Qui ne défend la liberté de penser que pour soi-même, en effet, est déjà disposé à la trahir. Il ne s'agit pas de savoir si cette liberté rend les hommes heureux ou si même elle les rend moraux. Il ne s'agit pas de savoir si elle favorise plutôt le mal que le bien, car Dieu est maître du mal comme du bien. Il me suffit qu'elle rende l'homme plus homme, plus digne de sa redoutable vocation d'homme, de sa vocation selon la nature, mais aussi de sa vocation surnaturelle. Car celui que la liturgie de la messe invite à la participation de la divinité, Divinitatis consortes, ne saurait rien renoncer de son risque sublime. En parlant comme je viens de le faire, je parle en chrétien et aussi en français. Je parle le langage de ma vieille chrétienté. je comprends très bien qu'un incrédule m'objecte avec ironie la guerre d'Espagne. Je n'ai jamais nié le scandale. Je puis même dire que je l'ai dénoncé. Mais je reconnais volontiers qu'il subsiste toujours. L'affaire d'Espagne ne sera pas oubliée. L'affaire d'Espagne sera réglée en temps et lieu, je le jure. J'ai vu, à Majorque, au cours de la Semaine Sainte de 1936, tandis que les équipes chargées de l'épuration parcouraient les villages pour y liquider les malpensants, à la moyenne de 10 victimes par jour, la population terrorisée se pressait aux tables saintes afin d'obtenir le précieux certificat de communion pascale. Je comprends très bien qu'un incrédule mette ces hideuses entreprises de sacrilège au compte d'un catholicisme exalté. Lorsque j'étais jeune, j'aurais moi-même, dans l'innocence de mon âge, pris leurs auteurs pour des fanatiques que le zèle emportait au-delà du bon sens. L'expérience de la vie m'a depuis convaincu que le fanatisme n'est chez eux que la marque de leur impuissance à rien croire d'un cœur simple et sincère, d'un cœur viril. Au lieu de demander à Dieu la foi qui leur manque, ils préfèrent se venger sur les incrédules, des angoisses dont l'humble acceptation leur vaudrait le salut. Et lorsqu'ils rêvent de voir allumer les bûchers, c'est avec l'espoir d'y venir réchauffer leur tiédeur, cette tiédeur que le Seigneur vomit. Non, l'opinion cléricale qui a justifié et glorifié la farce sanglante du franquisme n'était nullement exaltée. Elle était lâche et servile. Engagés dans une aventure abominable, ces évêques, ces prêtres, ces millions d'imbéciles n'auraient eu pour en sortir qu'à rendre hommage à la liberté. Mais la vérité leur faisait plus peur que le crime. Capitalistes, fascistes, marxistes, tous ces gens-là se ressemblent. Les uns nient la liberté, les autres font encore semblant d'y croire, mais qu'ils y croient ou n'y croient pas, cela n'a malheureusement plus beaucoup d'importance, puisqu'ils ne savent plus s'en servir. Hélas, le monde risque de perdre la liberté, de la perdre irréparablement, faute d'avoir perdu l'habitude de s'en servir. Je voudrais avoir, un moment, le contrôle de tous les postes de radio de la planète, pour dire aux hommes « Attention !» Prenez garde. La liberté est là, sur le bord de la route. Mais vous passez devant elle sans tourner la tête. Personne ne reconnaît l'instrument sacré, les grandes orgues, tour à tour furieuses ou tendres. On vous fait croire qu'elles sont hors d'usage. Ne le croyez pas. Si vous frôliez seulement du bout des doigts le clavier magique, la voix sublime remplirait de nouveau la terre. Ah, n'attendez pas trop longtemps. Ne laissez pas trop longtemps la machine merveilleuse exposée au vent, à la pluie, à la risée des passants. Mais surtout, ne la confiez pas aux mécaniciens, aux techniciens, aux accordeurs, qui vous assurent qu'elle a besoin d'une mise au point, qu'ils vont la démonter. Ils la démonteront jusqu'à la dernière pièce, et ils ne la remonteront jamais. Oui, voilà l'appel que je voudrais lancer à travers l'espace. Mais vous-même qui lisez ces lignes, je le crains, vous l'entendriez sans le comprendre. Oui, cher lecteur, je crains que vous ne vous imaginiez pas la liberté comme de grandes orgues, qu'elle ne soit déjà pour vous qu'un mot grandiose, tel que ceux de vie, de mort, de morale, ce palais désert, où vous n'entrez que par hasard et dont vous sortez bien vite parce qu'il retentit de vos pas solitaires. Lorsqu'on prononce devant vous le mot d'ordre, vous savez tout de suite ce que c'est. Vous vous représentez un contrôleur, un policier, une file de gens auxquels le règlement impose de se tenir bien sagement les uns derrière les autres, en attendant que le même règlement les entasse pêle-mêle, 5 minutes plus tard, dans un restaurant à la cuisine assassine, dans un vieil autobus sans vitre ou dans un wagon sale et puant. Si vous êtes sincère, vous avouerez peut-être même que le mot de liberté vous suggère vaguement l'idée du désordre, la cohue, la bagarre, les prix montant d'heure en heure chez l'épicier, le boucher, le cultivateur stockant son maïs, les tonnes de poissons jetées à la mer pour maintenir les prix. Ou peut-être ne vous suggérerait-il rien du tout qu'un vide à remplir, comme celui, par exemple, de l'espace. Tel est le résultat de la propagande incessante faite depuis tant d'années par tous ceux qui, dans le monde, se trouvent intéressés à la formation en série d'une humanité docile, de plus en plus docile, à mesure que l'organisation économique, les concurrences et les guerres exigent une réglementation plus minutieuse. Ce que vos ancêtres appelaient des libertés, vous l'appelez déjà des désordres, des fantaisies. Pas de fantaisie, disent les gens d'affaires et les fonctionnaires, également soucieux d'aller vite. Le règlement est le règlement. Nous n'avons pas de temps à perdre pour des originaux qui prétendent ne pas faire comme tout le monde. Cela va vite, en effet, cher lecteur. Cela va très vite. J'ai vécu à une époque où la formalité du passeport semblait abolie à jamais. N'importe quel homme, pour se rendre d'Europe en Amérique, n'avait que la peine d'aller payer son passage à la compagnie transatlantique. Il pouvait faire le tour du monde avec une simple carte de visite dans son portefeuille. Les philosophes du XVIIIe siècle protestaient avec indignation contre l'impôt sur le sel, la gabelle, qui leur paraissait immoral, le sel étant un don de la nature au genre humain. Il y a 20 ans, le petit bourgeois français refusait de laisser prendre ses empreintes digitales, formalité jusqu'alors réservée aux forçats. « Oh oui, je sais, vous vous dites que ce sont là des bagatelles. » Mais en protestant contre ces bagatelles, le petit bourgeois engageait, sans le savoir, un héritage immense, toute une civilisation dont l'évanouissement progressif a passé presque inaperçu. Parce que l'État moderne, le Moloch technique, en posant solidement les bases de sa future tyrannie, restait fidèle à l'ancien vocabulaire libéral, couvrait ou justifiait du vocabulaire libéral ces innombrables usurpations. Au petit bourgeois français, refusant de laisser prendre ses empreintes digitales, l'intellectuel de profession, le parasite intellectuel, toujours complice du même pouvoir, même quand il paraît le combattre, ripostait avec dédain que ce préjugé contre la science risquait de mettre obstacle à une admirable réforme des méthodes d'identification. Qu'on ne pouvait sacrifier le progrès à la crainte ridicule de se salir les doigts. Erreur profonde. Ce n'était pas ses doigts que le petit bourgeois français, l'immortel La Brige de Courteline, craignait de salir. C'était sa dignité. C'était son âme. Oh, peut-être ne s'en doutait-il pas, ou ne s'en doutait-il qu'à demi. Peut-être sa révolte était-elle beaucoup moins celle de la prévoyance que celle de l'instinct? N'importe. On avait beau lui dire « Que risquez-vous? Que vous importe d'être instantanément reconnu grâce au moyen le plus simple et le plus infaillible? Le criminel seul trouve avantage à se cacher. » Il reconnaissait bien que le raisonnement n'était pas sans valeur, mais il ne se sentait pas convaincu. En ce temps-là, le procédé de M. Bertillon n'était en effet redoutable qu'aux criminels, et il en est de même encore maintenant. C'est le mot de criminel dont le sens s'est prodigieusement élargi, jusqu'à désigner tout citoyen peu favorable au régime au système, au parti ou à l'homme qui les incarne. Le petit bourgeois français n'avait certainement pas assez d'imagination pour se représenter un monde comme le nôtre, si différent du sien. Un monde où à chaque carrefour, la police d'État guetterait les suspects, filtrerait les passants, ferait du moindre portier d'hôtel responsable de ses fiches son auxiliaire bénévole et public. Mais, tout en se félicitant de voir la justice tirer parti contre les récidivistes de la nouvelle méthode, il pressentait qu'une arme si perfectionnée aux mains de l'État ne resterait pas longtemps inoffensive pour les simples citoyens. C'était sa dignité qu'il croyait seulement défendre, et il défendait avec elle nos sécurités et nos vies. Depuis 20 ans, combien de millions d'hommes, en Russie, en Italie, en Allemagne, en Espagne, ont été ainsi, grâce aux empreintes digitales, mis dans l'impossibilité non pas seulement de nuire aux tyrans, mais de s'en cacher ou de les fuir. Et ce système ingénieux a encore détruit quelque chose de plus précieux que des millions de vies humaines. L'idée qu'un citoyen qui n'a jamais eu affaire à la justice de son pays devrait rester parfaitement libre de dissimuler son identité à qui lui plaît pour des motifs dont il est seul juge ou simplement pour son plaisir, que toute indiscrétion d'un policier sur ce chapitre ne saurait être tolérée sans les raisons les plus graves, cette idée ne vient plus à l'esprit de personne. Le jour n'est pas loin, peut-être, où il nous semblera aussi naturel de laisser notre clé dans la serrure, afin que la police puisse entrer chez nous nuit et jour, que d'ouvrir notre portefeuille à toute réquisition. Et lorsque l'État jugera plus pratique, afin d'épargner le temps de ces innombrables contrôleurs de nous imposer une marque extérieure, pourquoi hésiterions-nous à nous laisser marquer au fer, à la joue ou à la fesse, comme le bétail? L'épuration des mal-pensants, si chère au régime totalitaire, en serait grandement facilitée.